Voilà, alors nous en arrivons à cette dernière partie, après ce parcours, où on essaie de voir maintenant quelle était la place de la culpabilité dans ce schéma moral que nous avons tout à l'heure, culpabilité réelle ou sentiment de culpabilité, le mécanisme de la culpabilité, et puis les différentes manières d'engendrer la culpabilité à partir de cette culpabilité foncière originaire et des culpabilités engendrées par moi-même ou par le contexte socioculturel dans lequel je baigne. Cette caricature aussi de l'appel à la perfection, qu'on appelle sainteté par le perfectionnisme, et l'incapacité de vouloir éviter la culpabilité au risque d'arriver à une société d'une violence extrême et à des êtres humains complètement névrotiques. Donc comment être libéré de la culpabilité psychologique? Eh bien, c'est en retrouvant la culpabilité morale. Je vous disais aujourd'hui, beaucoup de gens disent, mais il faut absolument retrouver la culpabilité, donnez-nous de la culpabilité, il faut absolument que la culpabilité puisse limiter nos pulsions destructrices. On se rend bien compte que la nouvelle loi, celle du désir qu'a engendré mai 68, et toutes les théories qui sous-tendent mai 68, conduit véritablement à une destruction, autodestruction, destruction des personnes, par un tel déséquilibre que les gens implosent et les pathologies psychiatriques augmentent de manière quasi exponentielle. Les souffrances sont là, réelles et terribles. Et puis la société elle-même explose. La violence qui s'exerce tout le milieu, toute résistance à mon ego va engendrer une violence quelque part. On en parlait précédemment. Hein. Si une personne me résiste, ben je viole. Si une personne ne veut pas me donner ce que je lui réclame de son bien, je le vole. Si une personne me contrarie, je la frappe, je la tue. Enfin voilà, il n'y a plus de limite. Il n'y a plus qu'une loi, c'est mon ego. Et toute personne qui résiste à mon ego, à la toute-puissance de mon ego, à mon désir, compris comme étant l'expression suprême de mon bonheur, eh bien, doit être éliminée, puisqu'elle devient l'obstacle frustrant et castrateur de l'accomplissement du moi. Voilà. Alors, la seule manière de sortir, eh bien, c'est de retrouver une vraie culpabilité. Et cette vraie culpabilité va s'enraciner dans la loi morale, dans ce que l'on appelle la faute ou le péché. On distingue l'un et l'autre. La faute qui désigne un acte répréhensible aux yeux de la conscience parce qu'il porte atteinte à l'homme, à sa dignité, à la relation entre les hommes. Et puis le péché qui est cette offense faite à Dieu et donc aussi à l'autre, ce manque d'amour de Dieu et de l'autre qui atteint la relation même de l'homme et de Dieu. Charles Jaunet disait, il ne faut pas dire que le péché est mal parce qu'il nous est défendu, il faut dire au contraire que le péché nous est défendu parce qu'il est mal, c'est-à-dire parce qu'il nous détourne de notre fin dernière, où est notre seule béatitude. Le péché compromet l'épanouissement de l'homme parce qu'il détruit et ravage le meilleur de son être. Et donc de retrouver le sens du péché et donc de la culpabilité rattachée au péché est capital. Alors le péché entraîne toujours un mouvement vers quelque chose. Le péché, dans la définition classique, c'est préférer la créature au créateur. Je suis attiré vers un bien de moindre importance, vers une action indue, en m'éloignant d'un bien convenable ou du bien suprême qu'est Dieu, est une action qui est due et qui est juste. Le péché est une rupture d'amour aussi avec Dieu, et comme on dit tout à l'heure, une destruction de mon être personnel et relationnel par le fait même que le péché m'enferme sur moi, me brise dans la relation et m'enferme sur moi. On peut pécher par action, on peut pécher par omission, on peut pécher en acte ou en pensée. Le péché peut être, si les ruptures d'amour... Il peut s'attaquer à l'amour.